La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous tous ici ce matin dans ce lieu de culte. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez à travers les réseaux sociaux. Nous sommes en communion les uns avec les autres, où que vous soyez, ici ce matin à l'Oratoire du Louvre. Et nous allons partager un moment important pour une famille, la famille de Léna Olivier Steinhardt, qui est là avec nous et dont une partie de la famille est venue de Cologne. Vous êtes les bienvenus ici tous pour ce moment si important pour Léna. Nous allons vivre ce temps de baptême et retrouver nous tous, peut-être aussi notre propre foi, notre propre confession de foi à l'écoute de celle de Léna. Je vous invite à la prière pour entrer dans ce temps de recueillement, de louange. Père, tu nous rassembles ce matin dans cette église. Permets que nous soyons une communauté de prière, de joie, autour de celle qui va recevoir le signe de ta grâce. Que chacun ici soit compté au nombre des témoins de ton amour pour ce monde et que notre foi fasse grandir notre amour du prochain. Envoie ton Esprit Saint sur nous. Permets que nous soyons inspirés et que nous puissions retrouver dans nos vies cette parole vivante qui nous a été transmise d'âge en âge. Je vous invite à prendre le premier répond de la liturgie au début des psautiers. Vous avez toute la liturgie avec des réponds à chaque moment de prière. Et nous louons le Seigneur avec le psaume 8 qui va être lu par la marraine de Léna, si vous voulez bien me rejoindre.
Au chef des chantres, sur la guttie, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Pour imposer silence à l'ennemi, et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait un peu, de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre.
Merci beaucoup. Merci pour cette lecture du psaume 8, un psaume d'émerveillement. Je vous invite à chanter ensemble un autre psaume, le psaume 33, les strophes 1, 2 et 3, dans le psautier français. Je vous invite à vous asseoir et nous allons continuer ce temps de culte en nous remettant devant le Seigneur avec nos vies telles qu'elles sont. Et d'abord, écoutons ce que le Seigneur nous commande comme un jalon sur notre route, une façon de nous dire « Tu ne te perdras pas si tu écoutes ma voix ». Voilà ce que le Seigneur nous dit à travers les Écritures, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. » C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors, je vous invite à chanter un peu plus fort parce que j'ai l'impression que ce matin, on entend difficilement. Donc, n'hésitez pas à faire exploser votre chant comme une prière puisque chanter, c'est prier deux fois. Nous nous remettons devant le Seigneur avec cette prière d'une de nos sœurs diaconesses. Seigneur, tu sais de quelle miséricorde nous avons besoin. Tu sais nos obscurités, nos silences, nos oublis, nos vanités. C'est à chacun comme un secret que tu les révèles. C'est à chacun comme un secret que tu les pardonnes. C'est à chacun comme un secret que tu donnes l'ordre de se relever et de marcher pour un nouveau service, pour un nouvel amour. Aussi, c'est avec confiance que nous te disons « Aie pitié de nous, Seigneur. » Amen. À travers les paroles du prophète Ésaïe, nous entendons la parole de grâce du Seigneur, sans cesse renouvelée sur nous. Il nous dit et nous redit sans cesse, « Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur, et je te garde ma miséricorde. » Chantons notre reconnaissance pour cette grâce sans cesse sur nous. Je vous invite à vous lever et à chanter de tout votre cœur. Voilà, je vous invite à vous asseoir et je vais maintenant entrer avec Léna dans le temps de la liturgie du baptême. Léna, tu as demandé à recevoir le baptême et je t'invite avec tes proches qui t'accompagnent aujourd'hui dans cette démarche à venir me rejoindre. Donc je t'invite à venir près de moi. Voilà, avec peut-être ta marraine et tes deux marraines. Voilà. Voilà. L'Église aujourd'hui accueille cette démarche avec joie et t'accompagne aujourd'hui, mais aussi tous les jours qui suivront. Nous sommes avec toi dans cette communion et je t'invite à confesser ta foi devant cette assemblée. Puisque tu as toi-même écrit cette confession de foi pour nous partager le sens de ta démarche.
Née dans une famille franco-allemande aux racines catholiques du côté de mon père et protestante du côté de ma mère, la question de Dieu m'a toujours travaillée. Non baptisée, mais réceptive depuis l'enfance à la prière qui m'accompagne chaque soir et à la beauté des textes de la Bible, comptée par ma mère, la foi me donne courage et espoir. Des questions existentielles, des événements familiaux et mon fiancé Régis, de culture catholique, m'ont encouragée à aller plus loin dans ma démarche en exprimant ma propre foi au sein de la communauté chrétienne protestante et à concrétiser l'étape du baptême. Aujourd'hui, le 18 avril 2021, à l'Oratoire du Louvre, je souhaite partager avec vous ma confession de foi. Je crois en Dieu le Père, l'architecte de notre monde merveilleux, celui qui a établi les galaxies, les cieux, les paysages, le soleil et les étoiles, celui qui est omniscient et connaît les secrets de notre existence, celui qui incarne et insuffle l'impulsion créatrice, celui dont la grandeur et les créations me révèlent la fragilité de l'homme, celui qui est esprit et amour et qui nous rappelle que nous sommes simplement de passage. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur, celui qui a rendu proche ce qui est infini et tout-puissant, celui qui nous aide à mesurer la chance de notre existence, celui qui est le reflet de la grâce et nous accompagne en nous rassurant, celui qui est pardon, compassion et bienveillance absolue. Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne la force de nous réaliser et de nous accomplir, qui nous encourage et nous soutient face à l'imprévu, qui nous pousse à écouter les messages de Dieu, qui nous offre la foi, l'espérance et l'amour. Je crois en l'Église chrétienne, à sa capacité à construire la fraternité entre les hommes et à rendre visible une des familles des enfants de Dieu. J'exprime ma reconnaissance à l'Église protestante unie qui offre la liberté de penser tout en guidant ceux qui se questionnent, qui accueille les heureux, les inquiets et ceux qui doutent.
Merci. Merci beaucoup. Voici la volonté de Jésus-Christ pour son Église, Léna. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations et faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné, dit le Seigneur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Léna, tu vas être baptisée au nom du Père, qui te donne le souffle de vie. Tu vas être baptisée au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour toi. Il t'appelle à son service. Tu vas être baptisée au nom du Saint-Esprit, qui a fait naître en toi la foi, l'espérance et l'amour. Il y a de l'eau ici, dans ce baptistère, qui est de l'eau tout ordinaire. Mais avec la parole de Dieu, cette eau devient l'eau du sacrement du baptême, eau d'une nouvelle naissance avec Dieu. Chaque jour, notre propre baptême est avec nous un signe que Dieu est sans cesse là et que nous dépendons de Dieu seul. Et ensemble, nous vivons de son amour. Léna, veux-tu recevoir le baptême ?
Oui.
Je vais t'inviter à te placer ici et je vais inviter voilà, tes deux marraines à me rejoindre. Voilà, rapprochez-vous ici. Voilà. Et je vous invite à vous lever tous pour être témoins de ce baptême. Léna, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Léna, pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je vous invite à chanter votre reconnaissance pour ce moment si précieux avec le cantique 204 « Seigneur, dirige et sanctifie » dans les petits livres bleus. Je suis désolée. Frères et sœurs, voici Léna, parce qu'il y a toujours la présentation dans le baptême, que les baptisés soient petits ou grands. Voici Léna, elle est ici chez elle, vous êtes sa famille spirituelle. Elle est maintenant, manifestement, votre sœur dans la foi du Christ. Elle est ici chez elle, et si jamais un jour elle vient se séparer de l'Église du Christ, vous pourrez toujours affirmer qu'elle retrouvera toujours sa place, quoi qu'il arrive dans cette Église. Rien ne pourra la séparer de l'amour de Dieu. Et en lui gardant cette place sans cesse, vous serez ainsi les témoins de l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun. Voilà. Merci. Tous mes vœux pour ton baptême, Léna. Voilà, je vous invite à prendre place. Nous allons maintenant méditer ensemble la Bible. Aujourd'hui, nous lirons dans l'évangile de Marc un passage de la Bible qui a été choisi par Léna elle-même à travers toutes les lectures qu'elle a faites pour préparer ce temps de baptême. Voici ce qu'elle a choisi dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, à partir du verset 23. Comme Jésus traversait des champs de blé un jour de sabbat, ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient : « Pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis un jour de sabbat ?» Il leur dit : « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu, du temps du grand prêtre Abiatar, mangea les pains offerts, alors qu'il n'est permis qu'au prêtre d'en manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Et il leur disait : Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Je vous invite à la prière. Et avant de prier le Seigneur, je vous invite à entendre simplement ces quelques phrases de Martin Luther, des phrases qu'il a écrites dans la préface au Nouveau Testament. Là où les œuvres et l'amour ne jaillissent pas, la foi n'est pas vraie. L'Évangile n'a pas encore prise et le Christ n'est pas vraiment connu. Voilà, maintenant plonge-toi dans les livres du Nouveau Testament afin que tu saches les lire de cette manière-là. Seigneur, permets que nous sachions lire les témoignages de l'Évangile avec ce même cœur. Amen. Le sabbat a été fait pour l'homme, qui en douterait. Pourtant, cette règle de vie qui consiste à arrêter tout travail pour prendre le temps de vivre la vie que Dieu nous donne, est souvent devenue un enjeu d'orthodoxie théologique. L'obéissance à la règle d'interruption est parfois devenue une marque de conformité au commandement de Dieu, cantonnant la question du sabbat à une affaire purement théologique, alors qu'elle avait son fondement dans le souci de la vie même des hommes, au-delà des questions divines. Dans la Bible, le sabbat est lié à la création du monde en 7 jours ou à la libération du peuple de Dieu esclave en Égypte. Il y a les deux justifications qui existent. En effet, on justifie le sabbat, cette interruption dans la vie active, de plusieurs manières. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, il est écrit « Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré.
Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Cette recommandation semble nous dire, si Dieu s'est reposé, l'homme ne doit-il pas à plus forte raison se reposer lui aussi de tout son travail ? Sinon, quelle signification aurait le travail ? Qu'apporterait la construction humaine si l'œuvre ne pouvait jamais être complétée avec un temps de repos ? Si on ne pouvait jamais contempler son œuvre avec le même regard bienveillant que celui d'un Dieu qui, regardant tout ce qu'il avait fait, vit que cela était très bon. L'ensemble du temps du peuple juif est rythmé par ce septénaire et le sabbat qui le scande. 7 jours de la semaine, 7 fois 7 ans pour marquer le jubilé, l'année de la remise à plat de toutes les dettes et la restitution des biens de ceux qui avaient dû céder leurs biens pour payer ce qu'ils devaient à un maître, l'année aussi où l'on libérait les esclaves. Dans le livre du Deutéronome, il est écrit « Mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'immigré qui est dans tes villes, afin que ton serviteur et ta servante puissent se reposer comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que le Seigneur, ton Dieu, t'en a fait sortir d'une main forte. » Se souvenir du sabbat, c'est sortir de la violence d'une vie d'esclave, une vie qui appartiendrait à un maître abusif. Se souvenir du sabbat, c'est être un être humain et non pas un outil de travail entre les mains d'un autre qui seul aurait le privilège de vivre humainement et donc librement. Même le bœuf ou l'âne ont droit au repos. Dans le sabbat du Seigneur, ce repos est autorisé et même recommandé. Sinon, leur vie serait-elle encore respectée ? La scansion du temps entre travail et repos est comme la syntaxe de la longue phrase qu'est la vie humaine. Quelle signification aurait-elle cette phrase si elle n'était ponctuée par des arrêts qui permettent de ne pas tout confondre. Dans un commentaire rabbinique du livre de l'Exode, un midrash donc, on dit « À vous le sabbat est livré, vous n'êtes pas livré au sabbat ». Ce commentaire qui vaut pour une règle de vie synthétise à lui seul les idées bibliques de repos et de libération. La règle est pour la vie et la vie n'a pas pour but de se conformer aux règles, qu'elles soient religieuses ou profanes. L'accrochage entre les pharisiens et Jésus et sa bande, qui traverse le champ de blé, est significatif de la dérive du religieux quand il oublie son sens profond. Les pharisiens du 1er siècle semblent durcir les lignes en matière d'observance religieuse, sans chercher à les référer au sens humaniste qu'elles avaient à leur création. Et Jésus remet ce sens au centre du débat en invoquant l'exemple d'une autre bande de compagnons qui avaient fait ce qui était habituellement défendu pour sauver leur vie. David et ses amis, et oui, eux aussi, ont dû faire ce qui était défendu. David en fuite pour échapper à Saül, qui est devenu fou de jalousie à son égard et qui veut le tuer, va voir le prêtre Abiathar et lui demande de manger. Il n'a plus rien. Il meurt de faim. Mais le prêtre n'a à sa disposition que les pains habituellement destinés à être offerts à Dieu en signe de prémisse de tout le travail humain, au temple. Ce sont des pains sacrés. David et ses amis ont faim et leur vie dépend de ces pains. Ils les mangent et le seul fait de sauver leur vie est une offrande à Dieu. Le Dieu de la vie ne peut pas préférer un culte rendu selon les règles habituelles à la vie d'un homme affamé. Cela n'aurait pas de sens et contredirait toute l'alliance entre l'homme et Dieu. Quand les disciples arrachent des épis dans le champ qu'ils traversent, ils ne sont pas sacrilèges. D'ailleurs, la question n'est pas de savoir s'ils le sont. La question que Jésus remet au centre du débat, c'est de savoir quel est le sens d'une religion où les hommes s'épillent entre eux pour savoir s'ils sont conformes ou non aux commandements de Dieu. Une telle religion du contrôle et de la surveillance de l'homme par l'homme néglige le sens profond du commandement. Une telle religion oublie que les commandements de Dieu sont avant tout promesses de vie et de salut, jalons sur la route du croyant pour qu'il ne s'égare pas en vaine errance. Elle est impie, sans foi, car elle ne croit pas que Dieu veut le salut de l'homme. Une telle religion est une offense à Dieu, en fait. Dieu serait-il le maître impitoyable qui réduit en esclavage ses enfants ? Dans une telle religion, que devient la libération de l'homme ? Que devient le sabbat de Dieu ? Depuis longtemps, les hommes ont exploré leur relation à Dieu et en ont tiré des règles rituelles. L'observance de ces règles est devenue, dans certains cas, le lieu de jugement, de sanction, d'exclusion. En réaction à ces abus commis à l'encontre du sens des rites, un rejet de tout rite a pu exister sous le nom de liberté. On a tout jeté en même temps. Mais le rite n'est pas l'esclavage. Et les rejeter, ces rites, tous au nom de la menace qu'ils pourraient représenter pour le croyant, est une erreur. Peut-être aussi grave que celle qui consiste à en faire un instrument d'inquisition. Aujourd'hui, nous avons baptisé Léna. Et c'est elle qui avait choisi ce texte dans lequel elle avait compris le sens profond du religieux. Doit-on supprimer le baptême pour la raison que certains en font un examen d'entrée dans l'Église ? Ou doit-on comprendre ce rite comme l'expression, le langage qui permettent de dire avec des gestes et des mots comment Dieu adopte ses enfants ? Et doit-on se passer de l'amour ineffable que représente ce sacrement, sous prétexte que son sens serait travesti par ceux qui voudraient en faire un enjeu identitaire ou un sceau déposé autoritairement par des gardiens du christianisme sur les adeptes qu'ils auraient réussi à marquer ? Le baptême n'est pas un fer rouge pour marquer le troupeau du Seigneur. Il ne sous-entend pas que ceux qui ne le reçoivent pas sont hors du troupeau et donc perdus. Il est signe visible d'un amour infini dans lequel chacun est libre d'aller et venir. Et rendre visible ce signe, c'est faire signe dans ce monde. C'est inscrire une signification particulière de sa propre vie. Rien de plus, mais rien de moins. Et baptiser des petits-enfants n'est pas plus problématique si l'on considère la liberté pleine et entière de l'enfant de faire ce qu'il voudra de cette proposition quand il sera adulte. Dans sa préface au Nouveau Testament, le réformateur Martin Luther recommande au lecteur des Évangiles « Prends garde à ne pas faire du Christ un Moïse, ni de l'Évangile une loi ou un livre de doctrine, comme on l'a fait jusqu'ici. Car l'Évangile n'exige pas à proprement parler d'œuvres de notre part par lesquelles nous deviendrions justes et serions sauvés. Il condamne même de telles œuvres. Mais il exige la foi en Christ, qui consiste à croire qu'il a vaincu pour nous le péché, la mort et l'enfer, et qu'il nous donne ainsi justice, vie et salut, non pas par nos propres œuvres, mais par sa propre œuvre. Dans l'Évangile du Seigneur, il n'est plus temps d'élaborer des lois pour instituer un peuple, mais de comprendre le salut que contiennent pour les hommes toutes ces lois qui avaient été édictées avant. Croire à travers la vie de Jésus que l'amour de Dieu s'exprime dans l'accomplissement humain d'une foi sans crainte ni contrainte. Là est le sens de l'Évangile. Martin Luther ajoute : ce n'est pas encore connaître l'Évangile que de connaître ses doctrines et ses commandements. Mais tu le connais quand retentit la voix qui dit que Christ est ton bien propre avec sa vie, son enseignement, ses œuvres, sa mort, sa résurrection et tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, tout ce qu'il fait et peut faire. La religion n'est plus ici une doctrine, elle se fait rencontre. Et dans le cas du christianisme, elle est rencontre humaine, éclairée par la foi en un Dieu qui aime l'homme. Ce qui rapproche de Dieu celui qui se dit chrétien, c'est la foi d'un homme nommé Jésus, dans laquelle le chrétien pourra puiser sa propre foi, sa propre loi. C'est cette foi qui l'a érigé au rang de Christ, sauveur par la foi vécue. Luther continue dans sa préface en disant « En fait, là où est la foi, elle ne peut se contenir. Elle se manifeste, s'exprime par des bonnes œuvres, confesse et enseigne cet évangile devant les hommes et ose y engager toute sa vie. Et tout ce qu'elle vit et fait, elle le destine au bien du prochain. Elle engage aussi son corps, ses biens, son honneur, comme elle voit que le Christ l'a fait pour elle. C'est ainsi qu'elle suit l'exemple du Christ. Mais alors, mes frères et sœurs, si la religion n'est pas contrainte de l'homme, mais libération de l'homme, alors de quelle libération s'agit-il ? Sans doute de celle qui consiste à nous permettre de vivre humainement ce que notre vie nous réserve de fardeaux et de cadeaux, sans être déclaré coupable de n'être jamais à notre juste place. Ce salut est cette paix intérieure, ce sabbat du cœur qui parvient à murmurer à notre conscience « Vois comme tout est bien ». Une religion de la reconnaissance de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Ce murmure qui nous déclare heureux malgré notre pauvreté spirituelle, malgré nos fautes, malgré nos doutes et nos errances. C'est cette voix de la foi dont parle Luther. Un homme un jour nous a montré une voie pour l'homme dans l'amour infini de Dieu. Ce n'est pas la voie de l'autosatisfaction, ce n'est pas la voie du contentement de soi, non. C'est la voie de la foi qui passe au-delà, celle dans laquelle Dieu toujours nous fait grâce. Elle nous donne un sabbat pour l'homme. Elle nous permet de nous arrêter, de nous justifier sans cesse et de justifier notre présence au monde. Elle nous libère de ce jugement de soi, qui est parfois le pire parce que nous sommes souvent les plus sévères avec nous-mêmes, ce jugement qui nous empêche d'aimer. Elle nous permet de vivre et d'aimer en nous rappelant que nous sommes nous-mêmes infiniment aimés. Amen. Merci Aurélien pour cet accompagnement musical et cette méditation. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 308 et à confier votre route à celui qui nous guide. 308 dans les petits livres bleus. Confie à Dieu ta route. Voilà, je vous invite à vous asseoir et nous allons partager ensemble quelques annonces.
Bonjour à tous. Merci d'être à nouveau si nombreux. À Pâques, les étages étaient remplis. La semaine dernière, à l'Assemblée, Béatrice a demandé à ce qu'on se déplace pour respecter la règle des deux chaises et je vois que la jauge est bien remplie au rez-de-chaussée. Vraiment, merci. Écoutez, c'est très simple en termes d'annonce. Nous allons nous reposer. Agnès est déjà en train de se reposer. Elle revient le 28 avril. Et puis, Béatrice ira se reposer à partir du 28 avril. Mais la semaine prochaine, elle assurera la pause spirituelle avec Agnès. À la place d'Agnès, pardon. Donc, offrez-vous une pause spirituelle avec Béatrice ce jeudi 12h30, 14h30. Également, dans le cadre de l'œcuménisme et du dialogue interreligieux, vous savez que ça nous tient fortement à cœur dans ce conseil presbytéral et dans les précédents également, mais c'est important pour l'oratoire du Louvre. Nous aurons la semaine prochaine l'invité de Béatrice, monsieur Jonas Jacquelin, qui est donc de la synagogue Copernic, qui est une synagogue libérale, qui viendra prêcher dimanche prochain ici.
Voilà, il nous parlera du livre du Lévitique, qui est un livre qui n'est pas facile à lire seul. Et donc, je vous invite à venir écouter un passage de la paracha de la semaine prochaine, puisque ça fait partie de la paracha de la semaine de la synagogue Copernic. Et donc, vous pourrez donc entendre un commentaire d'une partie de cette paracha. C'est dans les chapitres 20, 21, 22 du livre du Lévitique. Il prendra un passage pour nous dire comment il comprend ce passage-là. Voilà.
Et puis, dernier mot, au nom du Conseil presbytéral, Léna, bienvenue. Voilà.
Et Léna et Régis vont se marier bientôt, et donc nous sommes en train de faire tout un chemin ensemble, avec toujours deux voies parallèles, celle de la préparation du baptême, que ça y est, nous sommes là à destination aujourd'hui, et puis la voie du mariage et la préparation du mariage qui continue, et nous sommes extrêmement heureux de vous compter parmi les mariés de l'Oratoire du Louvre, même si ça ne se fera pas ici au Temple. En tout cas, en septembre, nous aurons une belle fête et toute la communauté sera en communion avec vous à nouveau pour ce temps de mariage. Voilà.
Et dans le cadre œcuménique,
bien sûr,
vous l'avez compris,
bien sûr, oui.
Le mari est catholique. Voilà. Et merci à toi, Béatrice, d'avoir cité Luther, parce que souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, nous n'étions pas forcément une église unie.
Voilà. Alors, Luther, on peut le lire de diverses façons, et c'est vrai que tout ce qu'il dit dans ses préfaces, très souvent, est très très proche de la théologie qu'on peut entendre ici, et ça m'a semblé d'abord très essentiel de revenir à cette culture allemande qui a tellement formé et réformé notre religion chrétienne, et puis aussi partager avec vous ces magnifiques textes que je vous invite à aller lire. Voilà.
Voilà, c'est le temps de l'offrande. Et bon dimanche à tous.
Merci.
Et bon repos pour ceux qui ont la chance d'en prendre un peu.
Nous ouvrons les portes du temple et nous pouvons vivre ensemble cette sainte scène un peu particulière toujours. Nous sommes toujours dans des restrictions sanitaires, donc nous allons vivre cette scène avec la famille de Léna et nous communierons donc à 6 personnes. En revanche, pour vous tous, vous êtes dans la communion fraternelle et vous allez vivre une sainte scène uniquement symbolique et complètement spirituelle, je l'espère. Et je vous invite à préparer tout de suite vos cantiques au cantique 150 dans le Louange et Prière. pour partager cette communion avec nous. Je vais inviter ceux qui vont communier avec moi à me rejoindre. Venez autour de la table pour que nous célébrions pour tous cette Sainte Cène. Voilà, venez. Je vous invite à prendre place autour de la table. Voilà. Je vous invite à louer le Seigneur pour ce repas. Seigneur, notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de son règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous te chantons. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. » Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Père invité à ta sainte cène, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Et dans la confiance, nous te présentons notre monde. Nous te prions pour tous ceux qui nous ont quittés, tous ceux qui ne sont plus là et que nous remettons dans nos prières, sachant qu'ils sont dans ta grâce. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui, comme Léna, cherchent à partager leur foi dans des institutions accueillantes et ouvertes à ce que tu produis de singulier en chacun de nous, nous te prions. Pour nous tous qui prenons le risque de mettre des mots sur ton insondable présence, Seigneur, viens à notre aide. Pour tous ceux qui subissent la répression des religions d'État et ne sont pas libres d'exprimer leur foi, viens à leur aide. Ne nous laisse pas dans la paresse d'accepter sans réfléchir les dogmes élaborés par d'autres avant nous. Aide-nous dans l'exigence et la cohérence d'une foi pensée et vécue.
Pour les hommes, les femmes et les enfants qui traversent l'épreuve de la maladie, donne-leur, Seigneur, de garder force et la patience pour la combattre, mais aussi l'espoir pour l'accueillir, pour accueillir les joies de la vie. Mes pensées se tournent également vers nos aînés. Donne la force à nos grands-parents de garder la santé et la joie en ces périodes troubles où le partage nous manque terriblement.
Et ensemble, comme des enfants qui s'adressent à leur père en toute confiance, nous pouvons nous lever et prier ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le pain que nous partageons est signe de la présence de Jésus. Le vin que nous partageons est le mémorial du sang du Christ, le ressuscité. Je vous invite à chanter ensemble « À toi la gloire ». Père, nous te remercions pour ce repas. tu nous as rendus proches de toi. Élargis l'espace de notre vie. Donne-nous de cueillir, d'accueillir, de recueillir les êtres et les événements qui surviennent sur nos chemins. Nous ne pouvons pas faire cela sans toi. Accorde-nous, Seigneur, ta force et ton amour. Frères et sœurs, ce moment de sabbat, cette halte au milieu de nos vies est maintenant terminée, mais il diffusera sur tous vos jours, sur toutes vos heures. Et toi, Léna, tu pars avec l'assurance d'avoir manifesté ta foi devant des frères et des sœurs qui maintenant te comptent parmi eux avec tout l'amour que le Seigneur leur demande d'avoir pour toi et qu'ils ont déjà pour toi, j'en suis sûre. Allez, allez avec cet amour inconditionnel de Dieu en vous et il rayonnera sur ce monde. Recevez la bénédiction de Dieu. Le Seigneur de toute grâce nous fait grâce en tout temps et nous bénit. Amen. Papa. Voilà, alors laissez bien vos livres sur les chaises pour ne pas les toucher. Et puis, bon dimanche à tous.